Moment documentaire. Les mardis après-midi. Et rebonjour sur JTFM pour le moment documentaire du mardi après-midi. Aujourd'hui, nous écoutons la troisième partie d'un documentaire en quatre volets d'Étienne Rosset, Mettre au monde face à la catastrophe. Les deux premières parties sont disponibles en ligne sur de nombreuses plateformes de podcast et sur le site de JTFM. Et cette troisième partie s'intitule « Un nouvel espoir ou un grand déni ?»
Bah après, faut garder espoir et je pense que c'est une lueur d'espoir, les enfants. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est les générations futures feront mieux que les générations passées. Donc je pense que c'est plutôt dans cette optique que nos enfants seront une meilleure version de nous-mêmes. Donc mais c'est vrai que la planète qu'on leur laisse est pas forcément en bon état. Mais voilà quoi. Enfin moi je suis entre les deux donc elle était déjà pourrie de base mais.
Lettre à l'enfant que je n'aurai peut-être pas, troisième partie. Face à la catastrophe en cours, qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que vous représentez, vous, les enfants, dans nos esprits d'adultes? Chez certains antinatalistes, vous représentez une empreinte écologique humaine toujours plus désastreuse si l'on considère un maintien du système économique actuel. De l'autre côté, chez les riches pronatalistes de la Silicon Valley, vous représentez ce qui fera perdurer leurs supposées caractéristiques génétiques exceptionnelles. Vous serez alors ceux qui vous battraient pour sauvegarder leur culture qu'ils estiment supérieure et en danger. Plus souvent, vous représentez le fait de pouvoir faire vivre les valeurs de vos potentiels parents et on vous fait endosser la tâche de vous battre pour leur combat. Tu peux remarquer que dans tous les cas, vous faites l'objet soit d'une projection de vos parents, soit d'une objectification, tantôt sur l'impact matériel que vous aurez, que sur les combats que vous devrez mener. Vous êtes rarement envisagés comme des personnes qui deviendraient autonomes et détachées des envies de vos parents, des personnes à part entière à qui on pourrait souhaiter, parce qu'elles sont issues de notre chair et de notre volonté de vie, une existence joyeuse que l'on pourrait espérer partager avec la nôtre. Cette incapacité à vous voir comme ça est-elle la conséquence ou la cause d'un déni, d'un évitement de la question du monde dans lequel vous vivrez? Mais y a-t-il vraiment un déni? Ou bien les mécanismes de la reproduction vont-ils juste chercher dans d'autres affects? A-t-on vraiment l'avenir en tête lorsque l'on prend la décision de faire un enfant?
Mais il y a un truc qui est terrible en fait, c'est qu'à la fois on dit oui...
David.
L'avenir est trop angoissant pour mettre au monde des enfants et les éduquer dans un monde qui va être clairement hostile. Mais à la fois de ça, il y a aussi quelque chose aujourd'hui qui, dans tout un tas de choix qu'on fait, hein, pas que le choix de procréer, hein, qui aussi relève d'une espèce de... Je sais pas si c'est une amnésie ou une espèce de cécité volontaire à ne pas avoir les problèmes. Et que du coup, parfois, on se donne des marges de manœuvre pour dévier de... T'as des choses qu'il ne faudrait pas qu'on fasse, mais quand même, on le fait pour telle et telle raison, et que peut-être aussi qu'il y a une volonté de non voir la réalité qui nous fait face, et que peut-être les gens aussi ont besoin d'un espèce de, je sais pas, de réconfort, et que peut-être aussi que créer sa petite famille, c'est aussi une zone de confort, et que ça vaut... Ça vaut tout l'or du monde dans une période de turbulence, d'instabilité, d'angoisse, et que les gens y trouvent là une façon de trouver un plaisir, et que peut-être en fait, malgré tout, se projeter à quel monde on va léguer à nos enfants, peut-être que ça c'est un peu enfoui quoi. Mais parce que peut-être penser à ça, c'est trop angoissant et que peut-être mieux se concentrer sur l'instant présent. En tout cas, je pense pas que quand on fait un enfant, on se projette dans 20, 30 ans, quoi. Donc peut-être que ce qui est plus fort que tout, encore aujourd'hui, c'est le présent, c'est l'immédiateté. Et quand bien même il y aurait tout un tas de dessins apocalyptiques qui nous entoureraient, je pense qu'il est malheureusement il est assez aisé dans ce monde de les effacer et de regarder un petit peu que ce qui peut encore être encore un petit peu reluisant dans ce marasme, dans ces décombres, et que voilà, chacun regarde l'horizon qu'il a envie de prendre, quoi.
Dans chaque civilisation aussi,
JB,
il y a les humains ont toujours trouvé des raisons d'être joyeux, des capsules de bonheur. En fait, je pense que c'est pendant les 30 glorieuses qu'on s'est dit qu'en fait. Le bonheur doit être continu et c'est lié au mode de consommation, à la société à la société aussi qu'on nous a vendue, mais mes grands-parents ils avaient une vie hyper dure mais ils étaient hyper joyeux, heureux de vivre. Ça En fait, moi, je dissocierais le côté, il y aura certainement des conditions de vie difficiles et un engagement quotidien pour éviter que ça n'empire. Mais pour moi, c'est pas complètement antinomique avec des moments de joie.
À la fois, je disais que...
Marion.
Que la déflagration de la planète n'était pas aussi avancée il y a 9 ans. C'était déjà la catastrophe, mais j'ai l'impression que là, c'est plus bourrin, quoi, quand même, comme accélération. Mais pour autant, je ne sais pas si ce serait vraiment différent, parce que c'est des échelles dans l'humanité, c'est rien, 9 ans. Même si la planète se fait défoncer de toutes parts, 9 ans, c'est... ça se voit même pas à l'échelle de l'humanité, ça existe même pas. Du coup, 9 ans ou une vie humaine, oui, il va se passer des choses incroyables et irréparables. Mais pour autant, je sais pas s'il faut s'empêcher de créer de la vie, quoi.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'évitement, en fait. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a même beaucoup de couples qui n'en parlent pas.
Lucas.
Parce que ça leur fait peur à eux individuellement, ça leur fait peur à ce que ça peut bouleverser dans le couple. Ça fait peur de se poser cette question aussi une fois qu'on a eu des enfants, c'est-à-dire que si on se dit mince, est-ce que j'ai bien fait, quelque part ça remet en cause presque du coup on peut presque se dire est-ce que cet enfant était souhaité, quoi, et ça c'est en tant que parent, je pense que c'est une question qui est vraiment qui est difficile à se poser vraiment ça peut être un peu vertigineux, donc quelque part je comprends que des personnes puissent être dans l'évitement de tout ça. Maintenant, je pense que pour la stabilité, on va dire, du couple, pour sa conscience et tout ça, je pense qu'il faut vraiment pouvoir en discuter vraiment avec son compagnon, sa compagne. Et je pense que c'est vraiment pas facile, quoi. Enfin, en tout cas, pour ma part... On l'a abordé, mais c'était pas quelque chose, par exemple, où pendant 2 heures, on se mettait autour d'une table et on débattait chacun avec nos arguments, quoi. Ça a donné lieu à des échanges des fois compliqués, presque des ultimatums, en fait, du genre, bon ben, enfin si c'est comme ça, moi de toute façon, ce sera avec quelqu'un d'autre, ce sera pas avec toi que je ferai un enfant. Voilà, donc tout ça pour dire que jusqu'à présent, j'ai évoqué une approche très réfléchie de comment ça s'est fait, etc. Mais après, il y a cette réflexion à l'échelle individuelle, et puis il y a la mise en commun avec la personne qui partage notre vie. Et là, ça peut être... je pense que ça vient ajouter vraiment une autre dimension au problème, quoi. Enfin, parce qu'on peut avoir tout son argumentaire bien construit, et puis d'un coup se confronter à un autre argumentaire. Et le problème, c'est qu'à la fin, il faut arriver à un compromis, et la question, elle est forcément binaire, quoi. C'est-à-dire, soit on fait des enfants, soit on n'en fait pas, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Enfin, si, l'adoption, dont je parlais tout à l'heure, ça peut être aussi une manière de répondre à cette question.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évidence du désir d'enfant.
Charlotte de Best, sociologue.
C'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes ont des enfants, que la trajectoire logique ou normale dans le sens statistique, après c'est vrai que c'est la trajectoire logique, normale au sens statistique, c'est d'avoir des enfants. D'ailleurs on dit d'avoir des enfants, enfin, et comme si les enfants allaient rester des enfants. Alors que non, c'est-à-dire que les enfants qui naissent là aujourd'hui, en 2024, ils auront 65 ans en 2089. Et je trouve ça fou de dire ça. Je préparais un cours sur la démographie et je suis tombée là-dessus et je me suis dit, bon.
Est-ce qu'ils seront à la retraite à ce moment-là?
Bah, c'est ça. Alors voilà, oui, c'est ça. D'imaginer le monde en 2089, c'est les enfants qui naissent là en 2024. Ils auront 65 ans, donc pas vrai. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a une évidence du désir d'enfant. Donc c'est évident, pour le coup, que la majorité des personnes... Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des bons parents, ça ne veut pas dire tout ça, mais que la majorité des personnes qui deviennent parents aujourd'hui ne s'interrogent pas sur une projection de son enfant, en effet, en dehors de soi et dans le monde... Dans l'écosystème, en fait. Voilà, quand il aura 30, 40 ans, c'est sûr. Et je pense que si c'était le cas, toujours pareil, pour le coup, beaucoup plus de personnes n'auraient pas d'enfants. Parce que c'est trop angoissant, réellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être responsable, une fois de plus, de se dire... Et d'une certaine manière, c'est vrai. D'être responsable d'une personne ou d'une nouvelle existence, alors même qu'on n'a absolument pas les clés de la suite, normalement le cerveau il fait pas ça. il peut pas, ça, c'est réellement angoissant. Ça génère du stress, etc. D'ailleurs, un des démographes dit que pour sauter dans le grand bain de la parentalité, il faut quitter la rationalité. Et d'une certaine manière, il dit en fait que toutes les personnes qui deviennent parents sont irrationnelles. Donc n'ont pas de raison, ou donc n'ont pas la raison. Donc oui, bien évidemment que quand on met au monde un enfant, pour la plupart des individus, la question que tu poses de l'écosystème dans lequel cet enfant qui va devenir adulte, qui aura toutes les responsabilités d'un adulte, n'est pas posée.
Il y a des personnes qui sont dans le déni. Hein. Je veux dire, je pense que parfois on a un peu les œillères de notre conscience écolo. Moi, quand je suis devenue maman, je me suis mise à fréquenter pas mal d'autres mamans qui, à l'écologie, elles n'avaient rien à faire.
Charlotte Meyer, journaliste et autrice.
Et donc, tu vois bien que parfois, tu as l'impression que tout le monde est sensibilisé ou au courant parce que on a notre entourage qui correspond un peu à nos valeurs et à notre manière de voir le monde. Mais en fait, c'est loin d'être aussi répandu dans la population. Maintenant, parmi les familles que j'ai rencontrées pour ce livre, qui sont parents et engagés dans la lutte contre le changement climatique, en fait, c'est des personnes qui consacrent leur vie à la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire, c'est leur métier, c'est leur manière de vivre. Donc dire qu'elles sont dans le déni parce qu'elles ont des enfants, je trouve pas ça très juste. Je pense que c'est justement parce qu'elles sont hyper engagées, hyper conscientes et qu'elles y consacrent autant de temps qu'elles sont dans l'action. Et qu'en fait, c'est cette action-là qui a permis d'ouvrir une fenêtre pour qu'elles aient envie de mettre un enfant au monde en conscience. Parce qu'en fait, comme elles sont dans l'action au quotidien, eh ben, elles ont peut-être plus d'espoir et d'optimisme pour la suite. Donc le déni, il existe. Mais chez ces personnes-là que je rencontre, je dirais pas. Enfin, je pense que c'est pas leur rendre justice de dire qu'elles sont dans le déni, alors qu'en fait, c'est les premières engagées, les premières en manif, les premières à créer autre chose et à dénoncer, quoi.
Moi, pour garder le lien et continuer ma recherche, c'est un peu difficile de dire. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ?
Mathilde Krayenbühl, doctorante en anthropologie.
Je sens que j'arrive pas à aller là-dedans dans mes propres entretiens, et que pour moi, c'est la preuve que c'est pas un impensé pour Helle. Ils savent très bien, enfin, ils ont lu ces choses-là, ils en sont conscients, conscientes. Mais c'est comme ça. Et puis après, du coup, il y a tout un tas de justifications, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut s'attaquer à la racine, faire les enfants qui ont d'emblée une certaine manière d'être au monde fait partie de la solution, que même s'ils ont une vie courte mais belle, ça aura valu la peine, quelque chose comme ça. Et il y a aussi le parallèle avec d'autres périodes historiques qui est régulièrement fait, c'est-à-dire que à chaque époque, c'est problème. Et ça, c'est... On peut se dire, mais en fait, là, c'est les conditions d'habitabilité de la Terre qui sont mises en jeu, donc c'est pas exactement pareil que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, cette idée qu'on n'a pas le contrôle sur le futur et ce que vont vivre nos enfants, ça, c'est quelque chose qui est admis et qui sécurise, slash déresponsabilise les parents, parce qu'ils ne peuvent pas porter cette responsabilité-là.
Dans le documentaire The Climate Baby Dilemma, une activiste d'un peuple autochtone du Canada dit à la caméra qu'il est impensable pour les peuples qui ont connu le génocide de ne pas faire d'enfants. C'est pour eux, dit-elle, la façon de montrer aux colonisateurs qu'il n'a pas gagné, que les enfants sont un acte de résistance pour un peuple dont la population et la culture ont été décimées. Elle affirme que pour elle, être mère est un acte politique d'une très grande force. Elle soutient que pour les sociétés occidentales, le fait de perdre confiance en l'avenir est nouveau, et que ce doute pourrait leur permettre d'ouvrir les yeux sur les souffrances qu'éprouvent chaque jour les personnes dont l'essence même de l'existence est menacée par les conséquences des modes de vie occidentaux. Vous, les enfants du futur, semblez toujours liés dans nos représentations au sentiment d'espoir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous nous donnez de l'espoir, donc nous voulons vous voir au monde, ou bien... Nous avons espoir en l'avenir, donc nous n'avons pas de raison de ne pas vous vouloir. Plusieurs fois dans les entretiens est revenue la remarque que même pendant les pires moments de l'histoire, les adultes ont continué à faire des enfants. Est-ce qu'il n'est viscéralement pas possible de perdre totalement espoir pour l'esprit humain ?
Je crois qu'on est en plein Covid et que je suis en train de dîner avec mes parents.
Charlotte Meyer.
Et que mon père fait une vanne en mode « Oh bah là là, avec les confinements successifs, je risque pas de devenir grand-père. » Et là, je m'entends lui dire « De toute manière, vu la situation climatique, ce sera pas moi qui te donnerai ce petit enfant-là. » Je me souviens de ce jour-là où je l'ai verbalisé et qu'ensuite, pour moi, il y a eu ce truc où je me suis dit « Ok, maintenant, je l'ai dit à voix haute. Bah, ce serait bien si vraiment s'y conformer. » Et à ce moment-là, c'est vraiment un sacrifice que je fais parce que moi, je sentais que j'avais envie de, voilà, d'avoir un enfant, mais que à l'époque, ça m'apparaissait plus comme un caprice que... qu'autre chose. Et ensuite, en 2021, je pars en reportage itinérant avec mon conjoint. Et le but, c'était d'écrire un livre sur les alternatives écologiques qui se mettent en place au milieu local en France, donc sur les territoires un peu reculés, sans qu'il y ait forcément de lien avec la parentalité. Et au milieu de ce reportage, je découvre que je suis enceinte, alors que ce n'était pas prévu. Et en fait, je me rends tout de suite compte que, plutôt que de la peur, je me sens... Enfin, vraiment, c'est sentiment de bonheur d'être enceinte avant que la réalité me retombe dessus. Et je me rappelle que, voilà, on avait pris cette décision aussi ensemble avec mon conjoint, que, vu le contexte actuel et le fait qu'on ait le nez dedans tout le temps, en plus, c'est vraiment pas une bonne idée de mettre cet enfant au monde. Et le premier problème, c'est que comme j'étais sur un écolieu à ce moment-là, c'est un peu des déserts médicaux. Et du coup, quand je prends rendez-vous pour une IVG dès le lendemain, alors que vraiment je désirais déjà cet enfant, hein, je me sentais déjà mère 24 heures plus tard, et je prends rendez-vous pour une IVG, et on me dit, OK, le rendez-vous, c'est dans 6 semaines. Et 6 semaines, c'est énorme. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, tu passes 2 mois à attendre en sachant que tu as un enfant qui pousse dans ton ventre et que, en fait, tu le veux, cet enfant. Enfin, que chaque jour, tu te sens un peu plus mère et qu'en fait, c'est, malgré tout, tu vas y renoncer et lui dire au revoir. Et moi, c'était vraiment ça a été vraiment 6 semaines d'enfer pour moi où toutes les nuits, quand mon conjoint s'endormait, je parlais toute la nuit à mon enfant. Où je l'imagine. En plus, tu es obligé, tu l'imagines si. Si vraiment un jour il naissait, à quoi il ressemblerait, et puis et comment je l'appellerais, etc. Et puis tu poses ta main sur ton ventre en te disant en fait d'ici X jours il sera plus là, et vraiment c'était une douleur infinie pour moi. Et en plus on évoluait quand même sur un écolieu, donc sur un territoire où des personnes mettaient en place des alternatives, où tu avais quand même des enfants qui passaient de temps en temps, et je me disais mais c'est quand même dingue je vois des choses qui se mettent en place, qui donnent envie de croire en l'avenir. Mais est-ce que finalement je crois en ce que je fais si en fait je me sens pas capable de faire pareil, ou en tout cas de faire naître un enfant dans ce monde-là? Pourquoi est-ce que je viens médiatiser des personnes qui mettent en place des projets d'avenir qui sont beaux si moi je crois pas en l'avenir finalement? Et en fait, la veille de l'IVG, moi je vais voir mon conjoint et je lui dis, écoute, ça fait des semaines que j'essaye de m'imaginer passer la porte du bloc opératoire et j'y arrive pas. Et en fait, cette IVG, je vais pas la faire. Et il se trouve que lui, il était un peu dans la même période que moi, c'est-à-dire que, rationnellement parlant, il trouvait que c'était pas une bonne idée d'avoir un enfant, mais en même temps, il se voyait très bien papa. C'est un projet vraiment qu'il avait au fond de son cœur de fonder un foyer. Et du coup, on a décidé qu'on allait garder cet enfant, mais qu'on allait aussi transformer nos modes de vie pour qu'ils soient plus adaptés et cultiver l'espoir et surtout écrire ce livre aussi qui non seulement allait nous nourrir nous, c'est-à-dire nous donner des pistes un peu sur comment on élève son enfant différemment, mais répondre à des questions que d'autres parents ou futurs parents se posent certainement.
Je reviens simplement sur une perspective historique, parce que dans mon essai, je questionnais les autres périodes où l'espoir sur le long terme a pu être réduit à néant, et notamment la question de faire naître après l'Holocauste.
Frédéric Spinierny.
Et c'est pour ça que j'ai un travail de philosophe sur la question de transmettre la responsabilité de faire naître génération après génération, ce qui en fait signifie la responsabilité de créer un monde meilleur que le nôtre. Et c'est pour ça que... Il y a des périodes historiques qui étaient tout autant marquées par la violence. J'ai parlé de la Seconde Guerre mondiale parce que, évidemment, c'est une période où la philosophie a beaucoup traité la question de l'avenir, de la place de Dieu, de la place, effectivement, des êtres humains, de la guerre, etc., etc. Et la question de la naissance est aussi apparue, puisqu'on aurait pu conclure à une fin de la civilisation, puisque les peuples ont quand même créé et la bombe atomique et les chambres à gaz. Et pourtant, il y a quelque chose qui dans la naissance, nous oblige. Moi, en tout cas, c'est ma thèse, et c'est celle d'Anna Arendt, c'est celle de Hans Jonas. Il y a quelque chose qui nous oblige à nous repositionner comme étant responsables de créer un monde meilleur que le nôtre, toujours meilleur que le nôtre, pour accueillir les enfants. Et en vérité, les deux vont de pair. On ne peut pas créer un monde meilleur, premièrement parce que généralement, ça prend plus de temps qu'une vie. Et donc, en fait, il faut faire l'hypothèse que notre responsabilité, c'est celle-là. On crée des conditions d'accueil pour les enfants qui vont perpétuer l'idée qu'on peut toujours s'améliorer en tant qu'être humain. Chez Hans Jonas, dans son grand livre « Le principe responsabilité », il évoque les témoignages de familles juives qui précisément se posaient la question de faire naître en plein milieu du Troisième Reich, c'est-à-dire considérer qu'on puisse donner l'espoir à un enfant de vivre en tant que juif dans un régime qui avait pour objectif d'éliminer cette race-là, entre guillemets. Et du coup, si, je pense que c'est précisément parce que la question de la naissance était mise comme projet politique pour les régimes autoritaires, que les philosophes se sont ressaisis de la question pour rappeler qu'on était responsable de faire naître tout de même, en faisant l'hypothèse que chaque personne qui arrivait au monde pouvait renverser l'hégémonie du moment. Je pense que c'est une position philosophique importante parce qu'elle rappelle que dans les désespoirs, faire naître, c'est la possibilité qu'une seule personne en entraîne d'autres et renverse l'hégémonie actuelle et puis changer nos manières de vivre. Les manières de vivre qui, précisément, à certains moments de l'histoire, nous font désespérer effectivement de l'avenir de l'humanité.
Je pense que c'est pas le fait de faire des enfants qui nous permet de conserver un peu d'optimisme, c'est plutôt l'inverse, je pense.
Lucas.
Je dirais que c'est... C'est parce que, au fond de moi, je garde de l'espoir que je pense qu'on peut encore faire des enfants. Alors que, non, je me dis pas du tout, je mets au monde des enfants pour qu'il y ait plus de votes, qu'il y ait plus de votes antifascistes. Voilà, c'est pas du tout cette perspective-là, même si je la trouve intéressante. non, c'est parce que je pense qu'on a encore les moyens d'entrer dans une forme de résistance. nous, notre génération qui est déjà là et qui est déjà conscientisée en partie. Je délègue pas ça à mes enfants, quoi. Pas du tout.
Je pense que, encore une fois, pour moi, symboliquement, la naissance, elle est aussi là pour montrer que le monde qu'on vient de décrire, il n'est pas inéluctable. Il y a, je pense, dans la liberté humaine, quelque chose qui, comme le disait Hannah Arendt, relève du miracle, alors non pas au sens religieux, mais au sens de la liberté des individus, elle peut toujours produire quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une position philosophique d'espérance, c'est-à-dire, il faut croire qu'à un moment donné, une personne au monde va trouver, va former un groupe, va faire des recherches, va faire émerger un mouvement politique qui sera à même de faire basculer les choses qu'aujourd'hui on considère comme étant assez inéluctables, assez inexorables, et qui, je pense, dans le fond, désespère ou décourage beaucoup d'individus.
En fait, cet espoir d'amélioration...
Edgar.
Alors que les choses sont en train de s'empirer et que je pense qu'elles vont continuer à s'empirer, c'est parce que j'espère, j'essaie de prendre part à cette amélioration et j'espère que Mona aussi. Peut-être que les choses continueront à empirer et que Mona va vivre ça, mais... j'ai l'espoir que par moi, ce que je fais et ce que j'essaie de lui transmettre, eh ben, tout ça participera à l'amélioration de quelque chose, quoi.
C'est vrai que régulièrement, les parents qui me disent ici avoir hésité à avoir un enfant pour des raisons environnementales à un moment donné, me disent au final, on a choisi la vie.
Mathilde Krayenbühl conduit en ce moment sa thèse dans le sud-ouest de la France. Elle étudie la parentalité et les choix reproductifs de personnes qui ont choisi de quitter les villes et de développer d'autres modes de vie plus autonomes, plus collectifs et plus connectés au reste de la nature.
Donc il y a cette idée que les enfants représentent la vie avec un grand V et l'espoir. Et cette idée est assez fortement ancrée. Les parents constatent également qu'ils sont plus soucieux et s'informent plus depuis qu'ils sont parents. La plupart se sentent aussi plus engagés. Et beaucoup d'ailleurs ont pris la décision de venir s'installer ici pour leurs enfants, pour leur offrir un cadre de vie adéquat, etc. Ils et elles font toutes ces choses... pour leurs enfants, c'est vraiment dirigé pour eux. Et donc, selon moi, les enfants permettent de maintenir une forme de représentation continuiste du temps et du futur. C'est-à-dire que c'est eux qui font le pont entre ce qu'on vit maintenant et ce qui sera plus tard. Et finalement, beaucoup considèrent qu'il faut prendre le problème à la racine. Donc les problèmes environnementaux, sociaux ou autres. Et que éduquer ses enfants en leur inculquant directement les bons réflexes et une certaine manière d'être au monde, ça fait partie en effet de la solution. Et donc, avoir des enfants devient, je dirais pas que ça devient un geste militant, par contre, c'est refuser de céder à la résignation. Très clairement. Ouais.
Enfin, on peut pas tout arrêter parce que il y a la montée du fascisme. Enfin, si on s'était dit ça pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, y aurait toujours des régimes fascistes totalitaires aujourd'hui encore, ou alors ils seraient autodétruits, je sais pas. Mais enfin.
Lucas.
On peut pas juste baisser les bras face à ça. Après, oui, est-ce qu'on aurait dû ne pas faire d'enfants et se dire c'est à nous d'endosser ce problème-là et couper quelque part le robinet de nouveau-né à ce moment-là, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment une question difficile à trancher, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne garde plus aucun espoir, c'est sûr que ça ne peut pas s'améliorer, quoi. Maintenant... moi, j'estime ne pas être dans une stratégie de l'évitement, d'être prêt à, éventuellement entrer en résistance s'il y avait des régimes totalitaires qui arrivaient au pouvoir. Enfin, en tout cas, je dis ça maintenant, c'est peut-être assez facile à dire ici confortablement, mais moi, je pense que c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser, quoi. C'est-à-dire, si c'était plutôt des problèmes d'ordre géopolitique qui intervenaient, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se soumet totalement ? Et auquel cas, oui, je pense qu'il ne faut même pas envisager de perspective d'avenir de génération future, parce que sous un régime totalitaire, je ne vois pas quelle est la perspective d'avenir heureuse. Mais en revanche, si on conserve un peu d'espoir, je pense que ça, du coup, ça mérite de se poser cette question d'assumer de faire des enfants.
Je pense qu'il y a un lien dans nos représentations sociales un lien automatique entre enfant, vie et espoir. Et puis, il y a une chercheuse qui travaille sur les représentations de l'enfance à l'heure de l'Anthropocène et qui argumente que cette période marque le passage d'un enfant qu'il faut protéger comme un être vulnérable à un enfant qui va nous sauver. Et c'est-à-dire que, elle fait cette analyse en étudiant plutôt les médias, la littérature, le cinéma. Et donc cette idée que les générations futures vont nous sauver, elle est quand même assez présente. Et puis, elle est assez controversée aussi, parce que concrètement, ces enfants qui naissent maintenant, on reste dans le système politique qu'on connaît, ils auront peut-être le droit de vote à 18 ans. On se rapprochera assez gentiment de 2050, et si on prend les rapports qu'on connaît, c'est un peu tard. Du coup, bien sûr que c'est une argumentation qui est complexe, mais en tout cas, se retenir ou s'interdire d'avoir des enfants, quand bien même on en a l'envie très forte, c'est comme se creuser une tombe, en fait, d'avance pour ces personnes-là. Et donc c'est en effet synonyme d'une résignation, d'un nihilisme très très fort.
Déjà, je pense pas que les deux soient opposables. C'est-à-dire que nos enfants peuvent nous donner de l'espoir et on peut aussi espérer pour eux.
Charlotte Meyer.
Moi, il y a vraiment un truc un peu qui m'a fait tilter. Donc, ça fait un mois que j'ai sorti mon livre, un peu plus. J'ai eu pas mal d'interviews et il y en a beaucoup de médias qui... leur bilan un peu de mon livre, c'était que nos enfants sont une lueur d'espoir. Et en fait, pour moi, c'est pas forcément l'expression à laquelle je me raccorde le plus. Je trouve que c'est un peu trop simpliste. C'est-à-dire que si tu veux... Quand tu vois une image d'un enfant en pleine guerre, dans les décombres, que ce soit en Ukraine en ce moment ou en Palestine ou quoi, je veux dire, ça ne me donne pas du tout d'espoir, en fait, un enfant au milieu des décombres. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est plutôt le projet collectif qui peut naître autour. Donc, tout ce dont je te parlais, des projets éducatifs, des projets politiques, des sortes d'écosystèmes qui se créent autour de cet enfant pour leur permettre justement un avenir meilleur. Donc, cet espoir, c'est à nous de le tisser autour de notre enfant. Notre enfant ne porte pas tout seul l'espoir sur ses épaules, si tu veux.
Je trouve ça dommage de questionner l'être humain alors qu'on doit questionner nos modes de vie. Et
Frédéric Spignerni.
Ouais, ça j'avoue que c'est une question que je trouve plus intéressante, de se dire non, en fait, il faut qu'on enlève une partie de confort. On parlait tout à l'heure de notre position en tant que Français, occidental, par rapport à d'autres. On a énormément profité de la société qu'on est en train de critiquer, et du coup, il faut pouvoir renoncer à des choses. Et ça, je trouve ça intéressant, mais renoncer à des êtres humains, je considère que pour le coup, on fait une faute morale, parce qu'en tant qu'être humain, on a été mis au monde, et il y a une responsabilité à faire en sorte que la planète reste vivable ou habitable pour les êtres humains.
Vous êtes l'espoir et a priori vous continuerez de l'être. Malgré les cauchemars qui nous attendent et qui nous angoissent, vous gardez ce statut paradoxal de ceux qui nous font espérer et ceux pour qui on espère. Peut-être que l'espoir est au cœur de notre système de perpétuation de l'espèce. Sans une petite lueur d'amélioration, aussi improbable soit-elle, la vie ne serait certainement pas perçue comme valant la peine d'être vécue. Et puis, malgré l'accablement que l'on peut ressentir devant l'aggravation des problèmes, peut-être que lorsque l'on se bat pour un monde meilleur, ce monde doit pouvoir être vécu, foulé, senti et aimé pour en être vraiment un. Et pour cela, on a besoin des enfants. Dans l'équation difficile qui mène à un monde habitable et plus juste, les enfants deviennent alors une condition nécessaire au même titre que les changements sociétaux qui doivent avoir lieu. Vous désirez, vous les enfants à venir, en dépit de cette lente catastrophe en cours, n'est donc peut-être pas toujours un déni. C'est peut-être aussi la manifestation de cette inclination à l'espoir qui semble être codée au cœur de nos chromosomes. À l'avenir, mettre au monde face à la catastrophe, troisième partie, un documentaire d'Étienne Rosset.